prier pour nous durant notre absence, comme nous avons prié pour vous. Alors nous vous avions envoyé une carte, on l'a trouvée ce matin au courrier. Mieux vaut tard que jamais, mais enfin, l'intention était là, vous en avez la preuve flagrante, puisque cette carte, elle est entre mes mains. Voilà, béni soit Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur et je vous propose une lecture. Il y en a d'autres qui suivront. Mais tout d'abord, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 7. Voilà, la première épître, non pas l'évangile, mais l'épître, la première épître de Jean, chapitre 4. Je dis la première parce que Jean en a rédigé trois. Première épître de Jean, chapitre 4, et le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le peuple dit Amen. Et Amen, ça veut dire c'est vrai. Vous voyez, quand dans l'évangile, Jésus dit souvent en vérité, en fait, c'est Amen, Amen. C'est-à-dire que nous approuvons. Nous sommes d'accord, nous nous associons à ce qui vient d'être dit. Et vous avez dit Amen à cette phrase capitale, si Dieu nous a ainsi aimés, c'est-à-dire en donnant son Fils sur la croix, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour dont il est question dans ce texte, et nous aurions pu en choisir d'autres, c'est un thème inépuisable. Inépuisable. On peut dire même que la Bible tout entière, c'est un livre d'amour. C'est une déclaration d'amour que Dieu fait à l'égard de l'humanité. Même lorsque Dieu manifeste sa justice, son jugement et sa colère, il ne se départit point cependant de son amour. Et puisqu'il nous a aimés, il nous invite, nous aussi, à aimer. Alors, l'amour, il ne s'agit pas seulement d'en parler, mais il s'agit de le manifester réellement. Et je ne pense pas ce matin épuiser le sujet, puisqu'il est, je viens de le dire, inépuisable. Mais partagez avec vous quelques pensées à ce sujet. L'amour, il ne s'agit pas non plus de le revendiquer. Il faut qu'on m'aime. Aimez-moi les uns les autres. Mais il s'agit de le manifester, je le répète. Il ne s'agit pas de déplorer son absence. Parfois, on entend cette phrase dans les églises. Je l'ai entendue, vous aussi peut-être. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Je dois dire que lorsque j'entends ça, ça me peine profondément et ça m'irrite en même temps. Parce que c'est vrai. Allez, quoi, c'est vrai. Parce que nous sommes encore des êtres humains au sein de l'Église, il y a eu, il y a et il y aura, parfois, peut-être souvent, pourrions-nous dire, des manquements à l'amour. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que dans toutes les églises où je suis passé, dans lesquelles j'ai servi le Seigneur, j'ai rencontré aussi de l'amour. Des gens qui ont su m'aimer et qui ont su manifester, eh bien... La réalité de ce qu'il y avait dans leur cœur. Il s'agit donc non pas de revendiquer ni de déplorer l'absence de l'amour, mais plutôt de s'efforcer, par la grâce de Dieu, cet amour, de le produire, de le produire. Alors c'est vrai que l'amour dont il est question là, c'est un amour, un niveau d'amour supérieur, voyez, supérieur. Je ne suis pas du tout un spécialiste du grec, mais je crois savoir que dans le texte original ou originel, eh bien, il y a plusieurs termes pour parler de l'amour. Il y a l'amour philéo, c'est-à-dire l'amitié, la sympathie humaine. Bon, c'est bien, c'est bon. Et puis, il y a un niveau d'amour supérieur. L'amour que Dieu a pour nous et que nous devons nous-mêmes manifester les uns à l'égard des autres. Et c'est à ce niveau-là que Jésus veut nous entraîner. Dans l'évangile de Jean, quelque part, il dira ceci, « Aimez-vous les uns les autres ?» Et puis moi, ce qui me bouleverse, me remet en question, m'interpelle, c'est la suite. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aïe, 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 Seigneur. « Comme je vous ai aimé. » Jusqu'où son amour l'a-t-il conduit? Eh bien, au sacrifice suprême, en notre faveur. L'amour, c'est donc le don de soi. Vous voyez, on en revient à ce que nous disions il y a un instant, c'est pas revendiquer, c'est donner, c'est se donner. D'ailleurs, Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. L'amour qui donne, qui se donne, et même qui n'attend rien en retour. Vous voyez? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira ceci, si vous aimez ceux qui vous aiment, ben, que faites-vous d'extraordinaire? Quelle récompense méritez-vous? Parce que les païens, les pécheurs, les incroyants sont capables d'en faire autant. Et il veut nous défier en nous disant, et c'est aussi écrit dans l'évangile de Matthieu, aimez qui? Même vos ennemis. Vous voyez? L'amour, c'est un défi puisqu'il s'agit même d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. L'homme naturel n'est pas capable de produire un tel amour, mais Dieu peut nous en donner la capacité. Alléluia! Dieu peut nous en donner la capacité. J'ai toujours ce souvenir de ce frère que nous avons connu à Bayonne il y a bien longtemps, et lorsque cet homme est venu à l'écoute de l'Évangile, c'est pas, il a découvert la foi, il avait beaucoup de problèmes, et il dira le jour de son baptême, de son engagement avec le Seigneur, « Dieu m'a guéri de ma haine ». Ah, c'est une belle guérison celle-là. Béni soit Dieu pour les guérisons physiques, alléluia, mais aussi pour les guérisons morales. « Dieu m'a guéri de ma haine ». Oui, quelqu'un lui avait fait, comme on dit vulgairement, trivialement, un sale coup. Et suite à cette trahison dont il avait été victime, il échafaudait dans sa tête toutes sortes de plans machiavéliques pour faire du mal à cet homme qui lui avait fait lui-même tant de mal. Et peut-être même pour l'éliminer, vous voyez, il en perdait la raison, il y pensait jour et nuit. Et puis un jour, eh bien, la grâce de Dieu a visité son cœur. Alléluia. Il est né de nouveau. Et il disait, j'avais l'impression ce jour-là que tout ce qu'il y avait de mauvais en moi sortait, 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 et qu'à la place, quelque chose de bon me pénétrait. Et il disait, cet homme qu'autrefois je haïssais, maintenant je prie pour lui. Amen. Quel miracle. Peut-être au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un qui a des sentiments semblables, de la haine ou de la rancune, une rancune tenace, parce que quelqu'un à vous aussi vous a fait un sale coup. Eh bien, demandez au Seigneur la grâce, car c'est une grâce, de pardonner à ceux qui vous ont offensé, comme lui-même vous pardonne. Et demandez-lui la grâce et la force d'aimer même celui ou celle qui ne vous aime pas, qui vous a renié, qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a rejeté. Vous savez, l'apôtre Jean, qui a rédigé le texte que nous venons de lire. On l'appelle souvent l'apôtre de l'amour. Parce que dans, dans ses écrits, ce thème est souvent abordé, autant dans l'Évangile de Jean que dans les Épîtres de Jean. C'est là que eh bien, nous nous trouvons les plus belles déclarations en la matière. Alors on pourrait penser que cet homme avait eh bien, une disposition naturelle, particulière pour aimer, vous voyez, que c'était un tendre, qu'il avait bon cœur. Eh, mes amis, ce n'est pas du tout le style du personnage. Vous savez, lorsque Jésus l'a recruté, lui et son frère Jacques, pour en faire ses apôtres, il leur a donné un surnom. Jésus aimait bien donner des surnoms, vous avez remarqué ça, hein? Par exemple, Pierre, c'est un surnom. Il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Hein? Thomas, eh bien, parmi les disciples, on l'appelait Didyme, hein? Ça veut dire jumeau, et d'autres encore. Et alors, pour ce qui concerne Jean et son frère Jacques, Jésus les avait appelés les fils du tonnerre. Vous voyez, tout un programme. Il devait y avoir de l'électricité dans l'air parfois avec eux. Vous voyez, des hommes énergiques, quelque peu vindicatifs. Par exemple, lorsqu'un certain jour, dans un village des Samaritains, vous savez qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas d'affection particulière, mais de l'antipathie. Lorsque dans un village de Samaritains, on a refusé de recevoir Jésus et ses apôtres parce qu'ils étaient juifs. Et Jacques et Jean, son frère, ont dit, attends, le Seigneur va régler le problème. On va prier pour que le feu du ciel descende et les consume tous. Voilà. Oh, un homme vindicatif, plein de hargne, de colère et de méchanceté. Et puis, sectaire avec ça. Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce que il ne nous suit pas. Et puis un homme ambitieux, vaniteux, voyez. Avec Jacques, son frère, il revendiquait d'avoir les premières places, d'être assis dans le royaume des cieux, l'un à la droite, l'autre à la gauche du Seigneur Jésus. Voilà le topo, voilà le personnage. Hein? Antipathique quelque part, parce que hargneux, vindicatif, haineux même, méchant, ambitieux, jaloux, vaniteux, prétentieux, sectaire, étroit d'esprit, tout le contraire de l'amour. Mais le Seigneur est passé par là, alléluia. Et il a changé le cœur de cet homme. Alors moi ça m'encourage, hein, parce que je me dis, si mon cœur est mauvais, et il l'est par nature, et le vôtre également, il peut changer notre cœur. Il peut changer notre cœur et changer la haine en amour. Ça fait partie de la conversion. Ça fait partie, c'est le résultat de la nouvelle naissance, ça. C'est la preuve même qu'on a vécu une expérience de conversion authentique. La Bible dit que celui qui aime, il est né de Dieu. La preuve, la démonstration que nous sommes non pas des chrétiens, allez, pardonnez-moi l'expression, de pacotille, non pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens de fait, des chrétiens authentiques. La preuve, la démonstration, c'est pas de faire des prières fracassantes. C'est avant tout de manifester l'amour. L'amour qui procède de Dieu. Alors l'amour, c'est pas essentiellement une émotion. Non, l'amour chrétien. Cette qualité d'amour dont nous parlons, c'est bien plutôt le résultat d'un choix que l'on fait et que l'on assume. Vous avez remarqué que le Seigneur dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc., et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas facultatif. Le Seigneur ne dit pas, mon ami, il serait bon que tu tâches d'essayer de pouvoir produire un petit peu d'amour. Non, tu aimeras. Et parce que je suis un chrétien, parce que je suis un enfant de Dieu, ce commandement, je dois me l'approprier et dire, Seigneur, eh bien, avec le secours de ta grâce, je fais le choix d'aimer. Et au moment où je fais ce choix, alors la grâce de Dieu peut me venir en aide. L'amour, c'est le commandement suprême, on le sait bien. L'amour pour Dieu, nous l'avons déjà dit, répétons-le, est inséparable de l'amour pour nos semblables. Un jour, un scribe, c'est-à-dire un des spécialistes de l'Ancien Testament, vous voyez, un de ces hommes qui passaient leur temps le nez dans leur Bible, à décortiquer les textes de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, bien sûr, le Nouveau n'avait pas encore été écrit, est venu vers Jésus pour lui poser cette question. « Seigneur, d'après toi, quel est le plus grand de tous les commandements ?» Et le Seigneur, qui savait son catéchisme par cœur, lui a bien répondu en disant, « Le voici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et il ajoute, « Et voici le second qui lui est semblable, qui lui est uni, qui lui est associé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le commandement suprême, le commandement par excellence, c'est la valeur cardinale suprême. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, eh bien, l'apôtre Paul passe en revue quelques-unes des vertus chrétiennes essentielles. Il parle de la foi, il parle de l'espérance, et voilà, ces trois choses demeurent. La foi, c'est important de l'avoir, la foi. Vous êtes là parce que vous avez la foi, j'espère tout au moins. L'espérance, c'est-à-dire la certitude bénie qu'un jour, parce que nous avons reçu Christ comme sauveur, nous serons avec lui dans le ciel. La foi, l'espérance et l'amour. Et Paul conclut en disant, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, quand on lit ce texte de la première aux Corinthiens, tenez, on pourrait le faire ensemble. Je sais que beaucoup d'entre nous, vous le connaissez, vous l'avez lu maintes et maintes fois, mais enfin, ça remet les choses en place. Ça amène de la réflexion. Ça produit, en tout cas, ça doit en produire de la remise en question que de lire ça. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux ou jaloux ou plein de convoitise. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez, l'amour, c'est l'humilité. Il ne fait rien de malhonnête, de tordu, de faux, d'hypocrite. Il ne cherche point son intérêt. Moi d'abord, ça c'est l'état d'esprit du païen, mais pas celui de l'enfant de Dieu. Il ne s'irrite point. Quelque part dans la Bible, il dit que l'irritation, elle demeure dans le cœur de l'insensé. Voilà. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. D'autres traductions disent il ne prépare pas, il ne médite pas le mal. Vous voyez, il y a des gens, ils ont de sombres projets. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, celui-là. Il va voir de quel bois je me chauffe. Eh bien, ce n'est pas l'état d'esprit du chrétien. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse, ou c'est-à-dire il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Ne dites jamais de personne, celui-là, il n'y a rien à en tirer. Même celui qui vous a profondément déçu. Eh bien, espérez en Dieu. Et croyez que le Seigneur est encore capable pour toucher son cœur. Alléluia. Il espère tout, il supporte tout. Eh oui, dans notre texte, il est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ce que je vous raconte là, c'est basique, c'est élémentaire. C'est le béaba de la vie chrétienne. On sait ces choses-là, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de les savoir, de les connaître, de les avoir mémorisés. Il s'agit de les intérioriser là dans notre cœur et de les vivre. Seigneur, je veux faire le choix de vivre comme ça, selon ces principes-là. Et je veux que par ta grâce, tu m'affranchisses de tout ce qui est contraire à ces principes. Tout ce qui est contraire à l'amour. L'amour, c'est la vertu qui englobe, qui contient, qui relie toutes les autres. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Vous voyez ? la vertu qui englobe toutes les autres. L'amour est supérieur à tous les dons, les talents, les capacités naturelles ou spirituelles que nous pourrions posséder. Souvent, nous, les hommes, on est impressionnés par les talents que l'un ou l'autre manifeste. Talent naturel. Oh, celui-là, il est doué pour. Oh, celui-là, il sait faire ça. Ou spirituel. Oh là là, quelle parole prophétique merveilleuse. Quel prédicateur extraordinaire. Mais que dit la parole? Eh bien, regardez, on revient dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bien sûr qu'on demande au Seigneur sa puissance. Amen. Bien sûr qu'on doit aspirer aux dons spirituels. Amen. Ah, faites-le. Invoquez le Seigneur pour qu'il vous comble de ses grâces. Mais justement, l'apôtre Paul dira dans le chapitre 12, aspirez, désirez ardemment les dons les meilleurs, et il ajoute, et je vais encore vous montrer, chapitre 12, verset 31, je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire que les dons, spirituels ou naturels d'ailleurs, pour être pleinement efficaces, suivis d'effets, de résultats tangibles dans le domaine du service de Dieu, pour atteindre leur maximum de possibilités, d'efficacité, de puissance, d'autorité, il faut qu'il soit exercé dans l'amour. Et il faut se rappeler de ça. Voyez ? Par exemple, dans le domaine de la prophétie, quand une prophétie, une parole reçue de Dieu est communiquée à l'Église, quand elle contient, ça peut arriver, un élément de reproche, de répréhension, de remise en question, il ne faut pas qu'on sente de la dureté, de la violence, de l'agressivité. Dieu n'est pas comme ça. Même quand il nous reprend, voire quand il le fait sévèrement, eh bien, il y a toujours un élément de miséricorde. Le remède est proposé. La grâce de Dieu est présentée, voyez. Et dans un don prophétique, c'est ce qu'on doit sentir. Même si le Seigneur nous interpelle, nous remet en question personnellement ou collectivement, eh bien, il faut quand même qu'il y ait une note de miséricorde, de grâce. Voilà. L'Esprit produit la grâce. Il montre qu'en Jésus, il y a toujours une solution au problème. Alléluia. Il y a toujours le pardon possible pour le pire des péchés. Il y a la délivrance accessible pour la pire des misères que nous pourrions produire. Et c'est ainsi que nous exercerons les dons dans l'amour. Puisque nous parlons des dons spirituels, ils cesseront un jour, lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux. Pas avant, mais dans le ciel. On ne parlera plus en langue, enfin on ne parlera qu'une seule langue. Dans le ciel, on n'exercera plus de prophétie. Dans le ciel, plus besoin de dons de guérison, tout le monde sera en pleine forme, alléluia. Mais dans le ciel, on continuera à aimer, alléluia. Le ciel, nous pourrions dire, c'est le règne de l'amour. Et puis, l'amour, vous savez, c'est du concret. Pas de grandes déclarations, des actes parfois discrets, mais efficaces. Vous rappelez la parabole du bon samaritain? Pour répondre à cet homme, pour continuer le dialogue avec ce scribe qui avait posé la question primordiale, quel est le plus grand des commandements? Alors Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis ton prochain comme toi-même. Et l'autre a dit, oui, mais qui est mon prochain? Et Jésus a raconté cette belle histoire, cette parabole du bon samaritain. Et si vous lisez cette parabole du bon samaritain, vous vous rendrez compte que le samaritain qui vient secourir le blessé du chemin, il n'a rien dit, mais il a agi. Il a payé de sa personne, même de ses deniers, pour secourir le malheureux là qui baignait dans son sang, pour le transporter sur sa mule à l'hôtellerie et pour prendre soin de lui. C'est ça l'amour, mes amis. D'ailleurs, Jésus dira à cet homme, va et toi, fais de même. Vous avez remarqué comme c'est facile de faire semblant de ne pas avoir vu la misère des autres. C'est facile, hein? De se détourner. Peut-être on voit un frère, une sœur, manifestement, il n'a pas le moral, son visage est sombre. Des fois, peut-être, c'est plus confortable de passer son chemin et d'aller vers celui qui a l'air d'être en pleine forme pour avoir avec lui une discussion sympathique. Tandis que l'autre, on va le laisser de côté. Non, l'amour, il s'implique, il s'engage, il se donne, nous l'avons dit tout à l'heure. Tenez, l'apôtre Jean, encore lui, eh bien, va aborder cette question. Dans la première épître de Jean, là où nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 3 et au verset 16, voici ce que nous lisons. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et la suite qui va avec. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, écoutez ça. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Voyez, ne pas aimer en parole avec la langue seulement, mais en action et en vérité. C'est si simple parfois de faire du bien. Croyez pas? Je sais pas. Une petite visite à quelqu'un qui s'est isolé, qu'on ne voit plus depuis quelque temps parmi nous. Ou un coup de téléphone. Et puisque aujourd'hui nous avons des moyens technologiques sophistiqués, un SMS, un mail pour lui dire, tiens, je pense à toi. Je prie pour toi, j'aimerais tellement te revoir à nouveau parmi nous. Et si tu as des soucis, des chagrins, des problèmes, bien, je voudrais, autant que faire se peut, t'aider. Un sourire parfois. Dans le livre de Job, il leur dit ceci, les malheureux, je leur souriais quand ils perdaient courage. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Un sourire, voyez, une note d'affection, même pas un mot, même pas une parole, mais une attitude, voilà. Et puis, le sens de l'accueil. Quelque part dans ma Bible, il est écrit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Savoir s'accueillir, c'est simple. Quelqu'un me disait là récemment, elle a été dans un pays étranger, donc elle ne comprenait pas trop et presque pas du tout la langue. Et elle a été à l'église. Parce que quand on est chrétien et qu'il y a une église pas loin, on va à l'église. Alors elle me disait, mais ce qui m'a impressionné, j'ai pas tout compris de la prédication parce que cet homme-là, il parlait une langue que je ne parlais pas. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont nous avons été accueillis. La façon dont nous avons été accueillis. Et elle me disait, on a vraiment quelque chose à apprendre dans ce domaine. Ben oui, c'est vrai. On a quelque chose à apprendre dans ce domaine. Tenez, faites quelque chose pour vous accueillir. Allez, saluez tout à l'heure, à la sortie, quelqu'un que vous n'avez jamais salué. Pas seulement vos amis habituels, pas seulement vos connaissances proches, mais dites-vous, tiens, regarde, ce frère, ce sœur, cette sœur, je ne sais pas qui c'est, je ne connais même pas son nom. Je ne lui ai jamais dit bonjour, ni au revoir. Eh bien, aujourd'hui, je vais me prendre par la main. Avoir le courage. Oh mon Dieu, quel courage. D'aller vers lui, vers elle. Et de le saluer gentiment. En lui disant que Dieu te bénisse. Vous voyez, accueillez-vous les uns les autres. Il faut qu'il y ait cette atmosphère de chaleur humaine. Vous savez, lorsque les gens viennent pour la première fois, ou les premières fois écouter la parole de Dieu, à quoi sont-ils sensibles d'après vous? Pas forcément à la prédication. D'ailleurs, souvent j'ai remarqué que les gens disent « Je suis venu, le Seigneur a touché mon cœur, j'ai rien compris de ce que le prédicateur avait raconté. » Ce n'est pas encourageant pour les prédicateurs. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre. Mais quand les gens viennent, ben ils sont sensibles à une atmosphère spirituelle. Voyez, si nous sommes sombres, si nous sommes austères, Alexis, si nous sommes sympathiques comme des portes de prison, ils se diront, oh là là, on n'a pas envie d'y revenir. Mais si nous avons le sens de l'accueil, je sais bien que ça ne fait pas tout. C'est Dieu qui fait son œuvre. Mais il faut que nous, nous préparions le chemin pour que le Seigneur, justement, puisse accomplir son œuvre. Je dois dire ceci aussi, concernant l'amour. L'amour, ce n'est pas non plus quand même du sentimentalisme. Parce qu'il y a des gens qui confondent les deux, vous voyez. Dans la deuxième et la troisième épître de l'apôtre Jean, puisqu'il y en a trois, l'apôtre Jean dira ceci, « J'aime, mais attention, hein, j'aime dans la vérité. J'aime dans la vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour authentique ne laisse pas de place à la faiblesse ou au laxisme. C'est pourquoi, voyez-vous, que la discipline, quand elle est exercée dans l'Église, n'est pas une preuve d'un manque d'amour, au contraire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, il est dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » C'est le but, c'est l'objectif de le gagner à Christ, de le gagner à la foi, de le gagner à une vie sainte. S'il ne t'écoute pas, prends deux ou trois personnes. S'il ne les écoute pas non plus, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou comme un publicain. Et parfois, lorsqu'à juste titre, ça n'arrive pas tous les matins, mais parfois, lorsqu'à juste titre, une mesure disciplinaire est appliquée dans l'Église, certains disent, oh, il n'y a pas d'amour. On a été trop dur. Mais non, mes amis, mais non. L'amour, ce n'est pas du sentimentalisme que j'aime. Dans la vérité, nous dit la parole de Dieu. Le but étant de gagner le frère ou la sœur en l'amenant à la repentance. Et le but étant aussi d'éviter la contamination. C'est pourquoi il est écrit « Ôtez le méchant du milieu de vous ». L'amour, on ne le répétera jamais assez, c'est Dieu qui en est la source, l'origine. L'amour est de Dieu, nous l'avons lu. Car Dieu est amour. Amen. Il désire donc nous rendre capables d'aimer de ce genre d'amour supérieur qu'il produit lui-même, qu'il manifeste lui-même. Ce genre d'amour supérieur que nous sommes incapables de produire par nous-mêmes, eh bien, il veut et peut le produire en nous par son esprit. D'ailleurs, si vous lisez dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, il est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ailleurs, il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ailleurs encore, il est dit, l'amour de Dieu nous presse ou nous étreint. Vous voyez, c'est lui qui est capable d'en mettre une bonne dose, un bon paquet dans mon cœur. Et dans le vôtre. C'est un effet, je l'ai dit tout à l'heure, de la conversion, de la nouvelle naissance. Ah, on parlait tout à l'heure de l'apôtre Jean, qui à l'origine était vindicatif, sectaire, ambitieux, et tout ce qu'on voudra d'autre encore. Il est devenu l'apôtre de l'amour. Mais Ce fut l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Quel changement! Puis il y en a d'autres. Hein? Regardez Saul de Tarse. Hein? Saul de Tarse, avant de se convertir, avant de devenir l'homme de Dieu qu'il est devenu par la suite, l'apôtre Paul, il est dit de lui qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il parlera lui-même plus tard de ses excès de fureur, de rage contre les chrétiens. Il les forçait à blasphémer, il les frappait, il les jetait en prison. Quelle haine, quelle hargne. Mais dans la parole de Dieu, nous avons son témoignage et le bref résumé qu'il en fait dans la première épître qu'il adresse à son ami Timothée, en lui disant ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia! Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Hein? Il dira un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Et par la grâce du Seigneur, la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ ont surabondé dans ma vie. Cet homme haineux a été ensuite rempli d'amour. Le Seigneur est capable de produire les mêmes œuvres. Amen. Et si tu sens, et qui ne le sent pas ce matin, que tu manques d'amour, demande au Seigneur de te faire grâce. Il n'est pas là pour nous enterrer, il n'est pas là pour nous accabler de reproches. Non, non. Tenez à propos de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui fut un des témoins du meurtre d'Étienne, et même qui a approuvé ce meurtre. Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne. Quel amour! Il meurt lapidé, c'est affreux! Sous le coup de ses bourreaux, c'est pas qui l'assassine littéralement. Et que fait-il? Il ne crie pas vengeance, non! Il invoque le Seigneur en disant que ce péché ne leur soit pas imputé. Fais-leur grâce, pardonne-les. On peut dire que c'est le triomphe de l'amour. Comment le triomphe? Mais il meurt. Il meurt d'une manière tragique, terrible, assassiné, lapidé. C'est épouvantable. Vous dites que c'est un triomphe, ça oui. C'est le triomphe de l'amour. La Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Et Étienne, en mourant, il a vaincu. Je crois que cette parole qu'il a adressée au Seigneur ne leur impute pas ce péché. Elle a été exaucée. Alléluia. Parce que je le répète, parmi les acteurs et les spectateurs, il y avait ce Saul de Tarse. Et Dieu a fait grâce à Saul de Tarse, suite aussi, je crois, à l'intercession d'Étienne. Voyez, il est mort, il a triomphé en supportant sans haine l'injustice dont il était victime. Quelle leçon! Alors voilà, on pourrait dire encore beaucoup de choses. Vous pouvez prolonger la réflexion, la méditation. Il ne s'agit pas de culpabiliser ce matin. Il ne s'agit pas de partir la tête basse en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on en a pris ?» On n'est vraiment pas à la hauteur. Hein? Et il nous en manque de l'amour. Aïe, 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 aïe. Non. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 24, il y a une parole que j'apprécie beaucoup qui dit ceci: « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Je trouve que c'est beau cette expression, « nous exciter ». Il y a des gens qui s'excitent à la haine. Voilà, ils se montent la tête les uns par les autres. Voilà. Mais là, il est question de s'exciter à l'amour, de se stimuler. Et Dieu fasse que cette prédication, par la grâce de Dieu, puisse nous inciter, vous inciter, et m'inciter aussi, parce que ce que je vous raconte me concerne aussi, nous inciter à manifester plus d'amour. Qu'il y ait un stimulant communiqué par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de se décourager en disant « Je n'y arriverai Jamais. Non, la parole de Dieu, elle est créatrice de foi. Alléluia. Quelqu'un, je crois, tout à l'heure, citait cette parole de l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, le Seigneur veut nous fortifier par son esprit, par sa parole. Et nous voulons bénir son nom et lui dire, Seigneur, apprends-nous, apprends-moi à aimer comme toi, tu m'as aimé le premier. Amen. On se recueille quelques instants. Notre Père, notre Dieu,